une question dont la réponse pourrait être la solution que vous cherchez pour être heureux. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on sait que Dieu frappe à la porte de notre cœur? Le grand livre de Dieu va nous donner une réponse transformatrice aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, Dieu va continuer à parler à chacun de nos cœurs aujourd'hui à travers les Saintes Écritures. Je crois que nous devons tous prendre garde à ce qu'il va nous dire. Dans le livre de Job, au chapitre 33, verset 14, il est écrit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et que l'on n'y prend point garde. Alors je désire m'appliquer à y prendre garde. Ce n'est pas n'importe qui nous parle, c'est Dieu. Aujourd'hui, il va nous parler par sa parole et par la bouche de son serviteur, alors qu'il va répondre aux questions que voici. Y a-t-il des gens qui méritent la grâce de Dieu? Est-ce que le baptême contribue au salut d'une personne? Devons-nous dire à Dieu ce que nous avons sur le cœur? Comment pouvons-nous obtenir la justice de Dieu? De quelle façon est-ce que Dieu s'engage envers les croyants? Qu'est-ce qu'on doit faire quand on sait que Dieu frappe à la porte de notre cœur? Comment est-ce qu'on se repent? Y a-t-il des exemples de repentance dans la Bible? Y a-t-il dans la Bible des exemples de personnes qui ont reçu le salut par la foi? Restez avec nous et prenons garde à ce que notre Dieu merveilleux va nous enseigner par la bouche du pasteur Régent Joly. Et premièrement, prions. Seigneur, on aime te prier, parce qu'on sait que tu nous entends et que tu désires nous exaucer. Surtout quand on te demande quelque chose dont on est certain que c'est pour ta gloire. On le sait que c'est pour ta gloire, Seigneur, qu'on comprenne mieux tes Écritures, pour qu'on puisse les appliquer dans nos vies, pour te glorifier davantage. Alors parle à nos cœurs, dispose nos cœurs à bien recevoir ton beau message. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que le Seigneur Jésus est notre substitut et qu'il est mort à notre place. Nous sommes morts et ressuscités avec lui. Donc, nous sommes sauvés par la foi. Nous vivons par la foi et nous marchons par la foi. Nous n'avons pas à chercher à être crucifiés, nous sommes déjà morts en Jésus-Christ et nous sommes revenus à la vie avec lui. Jésus-Christ a déjà tout fait pour nous. Nous n'avons qu'à recevoir le cadeau par la foi. Nous avons aussi vu que Paul a posé des questions aux Galates. Il leur a demandé s'ils avaient reçu l'Esprit en observant la loi ou par la prédication de la foi. Il leur a demandé s'ils ont toute leur tête, car après avoir commencé par l'Esprit, ils veulent se remettre sous le joug de la loi. Les Galates avaient souffert en recevant l'Évangile, et Paul leur a demandé s'ils laisseraient ces souffrances devenir vaines. C'est ce qu'ils feraient en décidant d'observer la loi mosaïque plutôt que de marcher par la foi dans une relation intime avec Dieu. Aujourd'hui, Paul va prendre l'exemple d'Abraham pour illustrer que le salut et l'Esprit s'obtiennent par la foi, et non par l'observation de la loi mosaïque. Paul démontre qu'Abraham fut justifié avant d'être circoncis. La circoncision était un signe de sa justification. La doctrine de la justification par la foi, illustrée par le cas d'Abraham, prend une place majeure dans cet épître. Ensuite, Paul utilise allégoriquement le récit de Agar et de Sarah pour démontrer qu'il faut choisir entre la foi et les œuvres. En fait, le salut par l'observation de la loi doit être rejeté. Tout ceci nous amènera au chapitre 4. Maintenant, nous arrivons au cœur de ce livre, où le cas d'Abraham sert à illustrer la doctrine de la justification par la foi. Chers amis, débutons notre lecture. Galates chapitre 3, verset 5. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? nous ne pouvons jamais nous mériter la grâce de Dieu. Paul désire que les Galates comprennent que le salut s'obtient par la foi et que nous devons avancer dans notre vie chrétienne par la foi. Nous ne pouvons jamais nous mériter la grâce de Dieu, ni avant notre salut pour être sauvés, ni après pour notre marche chrétienne. Maintenant, voyons le cas d'Abraham. Verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Ni la circoncision, ni le baptême ne sauve. Ce verset cite Genèse chapitre 15 verset 6 qui parle d'Abraham. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Ce verset est aussi cité par Paul dans Romains chapitre 4 verset 3, alors qu'il enseignait qu'Abraham ne fut pas sauvé par l'observation de la loi. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Cette illustration est tirée du début de la vie d'Abraham alors qu'il marchait par la foi. Abraham est le personnage par excellence pour illustrer la justification par la foi. Paul l'utilise comme exemple dans l'Épître aux Romains et dans l'Épître aux Galates. Nous ne pouvons pas dire qu'Abraham fut sauvé en observant la loi mosaïque, car elle fut donnée 400 ans plus tard. Abraham fut aussi justifié avant que Dieu lui demande de se faire circoncire, ainsi que toute sa maison. La circoncision était un signe indiquant qu'Abraham était un homme de foi, tout comme le baptême permet à un chrétien d'afficher publiquement sa foi. Ni la circoncision, ni le baptême ne sauvent. En fait, ils ne contribuent en rien au salut d'une personne. Ils sont une indication visible d'un changement intérieur. Nous devrions dire à Dieu ce que nous avons sur le cœur. L'incident que Paul utilise comme illustration est raconté dans Genèse, chapitre 15. Abraham vient de libérer les rois de Sodome et de Gomorre, ainsi que son neveu Lot, qui avait été capturé par quatre rois venant de l'Orient. En revenant, Abraham avait refusé de prendre une part du butin, ne voulant pas que les rois de Sodome et de Gomorre puissent dire qu'ils avaient enrichi Abraham. Ceci est raconté au chapitre 14, toujours du livre de la Genèse. Au chapitre 15, Dieu apparaît à Abraham et le rassure au sujet de sa décision. En effet, Abraham avait décidé que c'est Dieu qui lui donnerait des richesses et non des hommes. Nous lisons au premier verset du chapitre 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Alors, Abraham en profita pour parler à Dieu, et il ne fit pas de détour. « Je n'ai pas de fils, » dit Abraham à Dieu, « et tu m'as promis que j'en aurai un. » Cette citation est une paraphrase. Nous devrions suivre l'exemple d'Abraham et prier à sa façon. Nous devrions dire à Dieu ce que nous avons sur le cœur. Si nous avons des problèmes de quelque nature que ce soit, si nous avons des joies, nous devrions en parler à Dieu, les partager avec Dieu. Le Seigneur répondit à Abraham. Sa réponse se résume en ceci. « Justement, Abraham, c'est bien que tu poses la question. J'étais justement pour t'en parler. » Dieu avait déjà dit à Abraham que sa postérité serait aussi nombreuse que les grains de sable sur le bord de la mer. Ensuite, Dieu prit Abraham par la main et le conduit à l'extérieur et lui demande de regarder le ciel. Il faisait nuit. En Palestine, il doit y avoir moins de pollution lumineuse qu'en Amérique du Nord, donc il est possible d'y voir plus d'étoiles. Et à l'époque d'Abraham, il n'y avait pas de grandes villes avec leur pollution lumineuse. Alors le ciel était encore plus visible qu'aujourd'hui. Il devait être impossible de compter les étoiles. En fait, Dieu dit à Abraham, « Tu ne peux compter les étoiles, il en sera ainsi de ta postérité. Tu ne pourras pas la dénombrer. » Quelle fut la réaction d'Abraham? Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Genèse, chapitre 15, verset 6. En fait, le mot hébreu traduit « eut confiance » et « amen ». Oui, ainsi soit-il. Dieu dit, je vais tenir ma promesse et te donner une postérité. Abraham répondit, que ce soit ainsi. Croyez-vous Dieu? Acceptez-vous son Fils? Est-ce qu'il y a une leçon pour nous dans tout cela? Certainement. Dieu nous dit, j'ai envoyé mon Fils mourir pour vous. Si vous croyez en lui, vous ne périrez pas. Vous aurez la vie éternelle. Est-ce que votre réponse est « Ainsi soit-il » ? Croyez-vous Dieu ? Acceptez-vous son Fils ? Si vous le faites, vous êtes justifié par la foi. C'est ce qu'Abraham a fait. Il a cru Dieu, et à ce moment-là, Dieu l'a déclaré juste. À cause de ses œuvres ? Certainement pas. Ses œuvres étaient imparfaites. Il ne pouvait pas offrir quoi que ce soit de parfait à Dieu. Paul va revenir sur cette pensée plus loin et élaborer davantage sur celle-ci. Quoiqu'Abraham n'ait eu rien de parfait à offrir à Dieu à ce moment-là, il put le faire ensuite parce que la justice parfaite du Seigneur Jésus avait été mise sur son compte. Le Seigneur lui avait fait cadeau de sa justice. Donc Abraham en avait maintenant une parfaite. C'est cela la doctrine de la justification par la foi. Abraham est juste aux yeux de Dieu, car le Seigneur Jésus lui a donné gratuitement sa propre justice, sa justice parfaite. Ensuite, Abraham demanda à Dieu, « Peux-tu inscrire cette promesse dans un contrat écrit ?» Peut-être que vous vous dites que vous avez lu la Genèse et remarqué qu'on n'y parle pas d'un contrat écrit. Bien, nous avons l'équivalent culturel au chapitre 15 de la Genèse. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Genèse, chapitre 15, verset 7. Observez la réaction d'Abraham. Il répond à Dieu. Il n'est pas un de ces super chrétiens qui répètent toujours les mêmes choses pieuses dans leurs prières. Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ?» Genèse, chapitre 15, verset 8. Autrement dit, « Puis-je avoir cette promesse par écrit ?» Dieu dit à Abraham, « Donnons-nous rendez-vous chez le notaire, et là, je te ferai un contrat par écrit. » Quelqu'un a peut-être envie d'appeler et me dire, « Une petite minute, Réjean, il n'y avait pas de notaire au temps d'Abraham. Le texte ne dit pas cela. » Oui, il le dit, mais dans le langage de la culture de l'époque. Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Genèse, chapitre 15, verset 9. C'est ainsi que l'on faisait une entente dans la culture hittite, la culture prédominante au temps d'Abraham. Le prophète Jérémie parle d'un tel pacte dans Jérémie, chapitre 34, verset 18. « Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un veau en deux et en passant entre ses morceaux. » Lorsqu'un pacte ou une alliance était faite entre deux hommes et que chacun s'engageait à faire quelque chose, ils coupaient en deux les animaux d'un sacrifice et ils séparaient les deux moitiés. Ensuite, les deux hommes marchaient ensemble entre les animaux partagés. Ceci scellait le contrat. C'était l'équivalent de passer devant le notaire aujourd'hui pour signer un contrat. Dieu s'engage. Nous croyons Dieu? Abraham prépara le sacrifice et attendit toute la journée. Il chassa les oiseaux de proie qui voulaient profiter du festin. Dieu vient après le coucher du soleil. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Genèse chapitre 15, verset 12. Alors qu'il est sur le point de sceller l'entente, Dieu fait dormir Abraham profondément. Abraham ne doit pas marcher en compagnie de Dieu entre les morceaux du sacrifice avec lui. Abraham ne prend aucun engagement dans cette entente. Seul Dieu s'engage à faire quelque chose. Donc, seul Dieu marchera entre les animaux partagés. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Genèse, chapitre 15, verset 17. Dieu seul a marché entre les animaux, parce que c'est lui qui a fait l'alliance. Abraham n'avait qu'à croire Dieu. Si l'alliance avait dépendu de la fidélité d'Abraham, comme prier tous les soirs, Abraham aurait pu oublier de prier un soir ou certains soirs, et cela aurait annulé l'alliance. Donc, Dieu fit toutes les promesses et l'alliance dépend uniquement de la fidélité de Dieu. Mes amis, il y a environ 2000 ans, le Seigneur Jésus est mort à la croix afin de payer pour vos péchés, ainsi que pour les miens. Dieu ne vous demande pas de pratiquer une religion pour être sauvé. Il vous demande de faire confiance à son Fils qui est mort sur la croix pour vous. C'est lui qui a fait le contrat. Il a fait les promesses ainsi que l'alliance, et il vous sauvera. C'est le nouveau contrat que nous avons avec Dieu, mes amis. L'ancienne alliance fut faite avec Abraham. Abraham crut et dit « Amen, ainsi soit fait ». Il a dit oui à la proposition que Dieu lui a offerte. Abraham crut, et sa foi lui fut imputée à justice. Il fut déclaré juste par Dieu parce qu'il crut. Dieu nous demande toujours de le croire. Faites confiance au Seigneur Jésus, et vous serez sauvés. Quelle belle illustration de la justification par la foi que nous avons dans l'histoire d'Abraham. Verset 7 de Galates chapitre 3. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Dieu fit tout cela pour Abraham avant de demander la circoncision et avant que la loi mosaïque soit donnée. Dieu ne fit pas une alliance avec Abraham parce qu'il a fait de bonnes œuvres, parce qu'il l'a mérité ou qu'il y avait droit pour tous ses efforts. Il a dit à Abraham, « Je vais faire cela pour toi si tu crois en moi. » Abraham dit, « Je te crois. » Dieu frappe à la porte de votre cœur. Dieu veut que votre foi repose sur un fondement solide. Mes amis, si vous venez à Dieu, vous devez venir à lui par la foi. Il frappe à la porte de votre cœur. Il n'avancera pas davantage à moins que vous ouvriez la porte. Il ne défoncera pas la porte de votre cœur pour s'imposer à vous. Écoutez ce texte. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Citation d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Seulement, vous pouvez ouvrir la porte de votre cœur au moyen de la foi, mes amis. Lorsque vous et moi mettons notre confiance en Jésus-Christ comme Sauveur, nous sommes sauvés de la même façon qu'Abraham le fut, c'est-à-dire par la foi. Versets 8 et 9. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. « Toutes les nations seront bénies en toi. » Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Nous élaborons ces deux versets à la prochaine émission. Pour l'instant, se repentir, c'est reconnaître Dieu comme notre Dieu personnel. Réfléchissons à ce qu'a fait Abraham exactement. Dieu est venu vers Abraham et il lui a demandé de quitter Ur, sa ville natale, pour venir s'installer dans le pays de Canaan. Il lui a promis de donner le pays à sa descendance. Abraham crut Dieu et lui obéit. La foi d'Abraham porta du fruit. Dans l'Épître aux Romains, Paul utilise l'expression « obéissance de la foi », déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi les païens. Romains chapitre 1, versets 4 et 5. En obéissant à Dieu, Abraham reconnaissait Dieu comme son Dieu personnel. Adam, en mangeant du fruit défendu, avait décidé de se fier à son jugement plutôt qu'à celui de Dieu. il avait décidé de ne plus dépendre de Dieu. Depuis, nous naissons avec des natures pécheresses, et nous ne voulons pas que Dieu règne sur nous. Mais croire Dieu et lui obéir, c'est faire l'opposé de ce qu'Adam a fait. Nous reconnaissons Dieu comme Dieu personnel. C'est ça la véritable repentance. À ceux qui viennent à lui, Dieu les accueille avec joie et leur propose un salut complet en Jésus-Christ. Nous croyons Dieu et nous acceptons le salut qu'il nous offre gratuitement. C'est lui qui sauve. C'est lui qui nous sauve. En Jésus-Christ, nous avons tout ce qui est nécessaire à notre salut. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Citation de Colossiens chapitre 2, verset 10. Si vous examinez le contexte de ce verset cité de l'Épître aux Colossiens, vous remarquerez que Paul parle à des personnes qui voulaient ajouter des œuvres à leur salut, qui voulaient s'imposer des règlements pour être sauvés ou se mériter l'amour de Dieu. Maintenant, une personne qui revient à Dieu lui obéit. C'est ce qu'on appelle l'obéissance par la foi. Le malfaiteur repentant, un exemple de salut par la foi. Nous avons, chers amis, un très bel exemple de justification par la foi dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 23. Jésus fut crucifié entre deux larrons, deux brigands. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous! » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Luc, chapitre 23, versets 39 à 43. Ceux qui étaient crucifiés, une mort très atroce, l'étaient pour des crimes très graves. Donc, les deux malfaiteurs entre Jésus n'étaient pas des petits voyous qui font des vols avec effraction. Ils devaient avoir commis un ou des meurtres. Ils devaient être des bandits de grand chemin ou quelque chose du genre. Pourtant, l'un d'eux est mort avec l'assurance qu'il serait au ciel le jour même. Cet homme était un pécheur. Il a dit, « Nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. » Donc, il ne pouvait pas compter sur une bonne vie ou de bonnes œuvres pour aller au ciel. Il n'était pas en mesure de donner de l'argent au temple. Aujourd'hui, ce serait à l'église. Il ne pouvait pas se réformer en adhérant à une philosophie, une religion ou une thérapie de groupe. Il était trop tard pour ce malfaiteur. Il était sur une croix et sa mort n'était qu'une question de quelques heures ou plus. Cependant, cet homme est mort avec l'assurance d'aller au ciel. Comment est-ce que cela fut possible? C'est simple. Il a mis sa confiance en Jésus-Christ, celui qui était crucifié à côté de lui. Il a perçu qu'il était plus qu'un homme. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il a perçu que Jésus régnerait bientôt. Il a mis sa confiance en Jésus et il fut accueilli sans aucun reproche. Jésus lui donna l'assurance qu'il serait au ciel le jour même. L'homme à côté du malfaiteur donnait sa vie en rançon pour le malfaiteur. Il ne méritait pas sa mort, mais il mourait pour les péchés du malfaiteur, et celui-ci put entrer gratuitement au ciel. Cet événement montre que ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, mais par la grâce infinie de Dieu. Le malfaiteur n'a pas servi Dieu sur terre, il n'est pas venu à Dieu, et après avoir reçu l'assurance de son salut, il ne pouvait pas faire d'œuvre. Il fut sauvé simplement par la grâce infinie de Dieu en qui il mit sa foi. Toi aussi, tu es invité à faire de même, à placer ta foi en Jésus. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Galates chapitre 3, les versets 8 à 17.
Merci, Régent. Une des choses que j'aime concernant l'épître de Paul aux Galates, c'est que Dieu appelle les pécheurs à la repentance. Il offre à tous ceux qui n'ont pas encore placé leur confiance en Jésus seul pour être sauvés, pour avoir la vie éternelle, l'opportunité de le faire. On voit clairement à travers les enseignements de ce livre ce qu'est la foi réelle, celle qui conduit au salut par grâce. Et on voit aussi comment nous, les croyants, on doit marcher par la foi. Mais aujourd'hui, mes amis, j'ai particulièrement aimé ce que Réjean a dit concernant le fait que nous devons dire à Dieu ce que nous avons sur le cœur. Je crois que nous avons tous des joies, des peines, des problèmes, des choses qui pèsent sur notre cœur. Je remercie le Seigneur de m'avoir amené à tout lui exprimer dès mes premiers pas en tant que croyante. Je pense qu'il n'y a pas une thérapie qui puisse remplacer ce qui se produit quand on répand notre cœur, même notre plainte devant Dieu. Il m'arrive parfois de vivre de l'injustice. Je suis certaine que ça vous arrive à vous aussi. Dans de tels moments, j'ai toujours hâte d'être seule avec Dieu. Et dès que je suis seule avec lui, soit dans mon auto ou chez moi, je vous dis que ça sort. Je parle à mon Père. Je sais qu'il m'écoute. Je sais aussi que Jésus compatit avec moi parce qu'il a vécu dans un corps de chair comme le mien. Et il a subi des injustices bien plus grandes que les miennes. Je peux même vous dire que je crie à Dieu et il entend mes cris. On a de bons exemples de ce que c'est de crier à Dieu un peu partout dans la parole de Dieu. On a juste à penser au peuple de Dieu qui était maltraité par les Égyptiens à un certain moment. Dans le livre de Deutéronome au chapitre 26, à partir du 27, il est écrit qu'ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel a entendu leur voix, il a vu leur oppression, leur peine, leur misère, et il les a fait sortir du pays d'Égypte vers un pays où coule le lait et le miel. Avant de connaître Dieu, j'ai crié aussi à lui. Et il a entendu mon cri, il m'a fait sortir de mon Égypte de péché. Et maintenant, je marche dans les voies de Dieu, vers ce pays où coule le lait et le miel. Je marche vers le ciel, où bientôt je verrai la face de Dieu. Je verrai le visage de Jésus, mon Sauveur merveilleux, qui a payé si cher pour que je sois libérée, sauvée. Mon ami, si tu n'as pas encore reçu le don gratuit de la vie éternelle, demande à Dieu de te sauver. Place ta confiance en Jésus seul. Ne te fie pas aux bonnes œuvres que tu as accomplies pour mériter ton ciel. Ne compte pas sur ta religion non plus. Il n'y a aucune religion qui soit assez puissante pour sauver qui que ce soit. Reconnais que tu es un pécheur perdu. Demande à Dieu de te sauver. Tu peux même crier si tu le veux. C'est ce que j'ai fait quand j'ai réalisé que j'étais une pécheresse perdue. Je me suis repentie et j'ai crié, « Seigneur, sauve-moi! » Et le Seigneur m'a entendu. Il savait qu'au moment où j'ai crié, « Sauve-moi! » j'avais la foi et il m'a sauvée. Réjean, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer?
Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Mmh. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Mmh. Alors, les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement.
Wow!
Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage, c'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie?
Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec.
Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous?
Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Et à demain.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.